Les grandes formations de gauche défendent, grosso modo, les mêmes intérêts. On le voit dans la plupart des pays occidentaux, la gauche s'embourgeoise, s'éloigne des catégories populaires. Et vous avez la célèbre phrase de Dominique Strauss-Kahn, qui expliquait dans un livre qu'il a écrit « Du groupe le plus défavorisé, on ne peut malheureusement pas toujours attendre une participation sereine à une démocratie parlementaire, non pas qu'il se désintéresse de l'histoire, mais ces irruptions s'y manifestent parfois dans la violence. » Donc vous avez toute une gauche qui, en quelque sorte, se méfie du peuple. Qui se méfie du peuple parce qu'elle représente, elle aussi, de plus en plus, les catégories moyennes et les catégories supérieures. On voit bien que la configuration sociale de ce qui était la gauche s'est complètement transformée. Qu'un certain nombre de responsables socialistes en France, mais de responsables démocrates aux États-Unis, sont complètement intégrés au monde de l'entreprise. Vous avez donc cette réconciliation, entre guillemets, entre la gauche et l'entreprise, qui fait que, grosso modo, ils défendent les mêmes intérêts sociaux que ceux de la droite. Et c'est donc toute une catégorie populaire, qui est la catégorie qui vit les existences les plus difficiles, qui a le sentiment qu'elle n'est pas représentée. Qu'elle n'est pas représentée, que la politique ne la concerne plus, et qui décide d'ailleurs assez largement de ne plus s'intéresser à la politique et de ne plus voter.
À qui ça profite et qui perd ?
Bon, je crois que là c'est une question assez facile que vous me posez. On a les chiffres en France entre 83 et 98, par exemple. On sait qu'il y a eu un transfert de la valeur ajoutée d'environ 8-9% du produit national brut des revenus du travail vers les revenus du capital. C'est l'équivalent de plus de 100 milliards d'euros par an qui autrefois auraient été versés aux revenus du travail et qui maintenant sont versés aux revenus du capital. Et tout favorise cette évolution, y compris le discours actuel sur l'attractivité. L'attractivité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les riches, il faut les taxer moins, sinon ils vont aller à l'étranger créer des entreprises. Mais l'attractivité, ça veut dire quoi pour les pauvres ? Que leurs salaires sont moindres, sinon leurs emplois vont être délocalisés à l'étranger. Donc pour les uns, il faut donner davantage, ce sont déjà ceux qui possèdent à peu près tout. Et pour les autres, qui ont des existences de plus en plus difficiles, il faut rogner sur les coûts et sur les avantages sociaux en invoquant la délocalisation. Vous avez une volonté qui a construit le monde dans lequel nous vivons, et c'est évidemment une volonté qui nous permettra, le cas échéant, d'en sortir. Et il faut voir peut-être que le capitalisme, le marché, ne constitue pas une utopie. Il se présente comme une utopie, mais pour la plupart d'entre nous, ça n'est pas une utopie. D'être constamment appelé à arbitrer entre deux compagnies de téléphone, entre deux compagnies d'électricité, de voir nos conversations individuelles, oui, y compris avec des amis, de plus en plus absorbés par ça, être obligé de choisir, être démarché en permanence, ça n'est pas la vision d'avenir à laquelle nous aspirons. Et c'est pour ça que ce système-là bénéficie d'appuis fragiles. Il bénéficie d'autant plus d'appuis fragiles que les couches sociales qui ont jusqu'à présent bénéficier de cette évolution sont maintenant menacés par la logique du capitalisme. Les délocalisations, ça n'est plus seulement les ouvriers. Ça n'est plus seulement l'ouvrière d'Argentan qui va perdre son emploi à Moulinex parce que l'emploi va être délocalisé ailleurs. Ça va être de plus en plus des emplois de techniciens, des emplois de comptables, des emplois d'avocats. Et alors là, la question va se poser jusqu'où ? Est-ce qu'on peut accepter que cette logique engouffre les catégories sociales qui sont les plus mobilisés politiquement parce que les autres ont cessé de s'intéresser à la politique. Et ils ont les moyens de stopper ce genre d'évolution. On le voit aussi à travers l'accession à la propriété, même pour les classes moyennes maintenant, ça devient impossible. Donc pendant une première période, si vous voulez, la logique du capitalisme a complètement broyé une partie de la classe ouvrière et les employés, les cadres supérieurs, les professions libérales ont laissé faire parce qu'ils y voyaient en quelque sorte leur intérêt. Mais maintenant, eux-mêmes sont menacés. Et si eux-mêmes sont menacés par un système qui n'a pas su secréter un projet, une utopie très exaltante, mais il y a un moment où le problème intervient et où la possibilité de revenir sur ces réformes aussi se pose. Parce que jusqu'à présent, la grande difficulté, c'est que chacune de ces réformes a conduit à la réforme suivante, mais que les partis de gauche n'ont jamais proposé de faire machine arrière. Ils n'ont jamais proposé de renationaliser ce qui avait été privatisé. Ils n'ont jamais proposé ce genre de réforme. Ils se sont dit, si nous arrivons au pouvoir, cette marche libérale avancera moins vite. Avec eux, c'est le TGV et avec nous, ce sera l'Express. Mais ça n'est pas une démarche qui est politiquement très mobilisatrice. Et il faut se rappeler que la démolition de la société à laquelle on est en train d'assister était déjà intervenue au XIXe siècle et qu'il y avait eu un mouvement de révolte qui avait provoqué le développement de ces régulations, de ces lois sociales. au moment où ce processus